Bonjour à tous, ici Nolan et Timéo sur les ondes avec Studio Zef sur la fréquence 91.1 à Blois et 91.7 à Vendôme. Vous vous demandez qu'est-ce que le Studio Zef ?
Le Studio Zef est une radio associative basée à Blois dans le quartier de la Quinière, plus précisément au 20 rue Guillemère. Bon, on explique pourquoi on est là ?
Non, bien sûr, je rigole. Nous sommes aujourd'hui à la radio pour un projet réalisé en français avec notre classe.
On vous propose aujourd'hui une émission sur le thème d'actualité, l'avenir de la planète et du numérique en débat.
On va parler écologie et numérique, donc changement climatique, écran, téléphone, composants. D'ailleurs, Studio Zef, tu connais ?
Oui, j'ai déjà fait plusieurs projets avec Studio Zef, comme celui avec Brigitte Lecordier, la légendaire voix française de Monkey D. Luffy et de Naruto Uzumaki. Mais pour ce projet-là, nous étions accompagnés de Madame Daprato, notre professeure de français, et de Clémentine, une des deux salariées de la structure.
Nolan, on passe à quoi maintenant ?
On passe maintenant au groupe de Delia, Camille et Molly qui vont nous parler du rapport des jeunes au numérique.
Bonjour. Nous allons vous présenter notre sujet qui a pour thème « Quel rapport les jeunes entretiennent-ils avec le numérique ?» Nous avons interrogé trois personnes adultes afin d'avoir le point de vue des adultes qui ont des enfants ou qui en fréquentent dans leur quotidien. Nous leur avons posé les trois mêmes questions qui sont
« Trouvez-vous que les jeunes passent beaucoup de temps devant les écrans ?» Et vous, combien de temps passez-vous devant les écrans ?
Puis,
selon vous, est-ce que les écrans impactent la vie des jeunes ? Si oui, pourquoi ?
Pour finir, nous leur avons demandé
« Selon vous, que pourrons-nous mettre en place pour que les jeunes passent moins de temps devant les écrans ?»
Voici leur réponse.
Trouvez-vous que les jeunes passent beaucoup de temps devant les écrans ? Et vous, combien de temps passez-vous par jour devant les écrans ?
Alors, oui, je pense que les jeunes passent beaucoup de temps devant les écrans, mais les adultes aussi. Donc après, je ne sais pas comparativement si ils en passent plus de temps que les adultes. Et moi, j'en passe quand même beaucoup parce qu'une partie de mon travail se fait sur ordinateur. Et après, ben, comme tout le monde, je regarde mon ordi, mon téléphone, etc. au niveau personnel. Donc, pour estimer, je ne sais pas, mais plusieurs heures par jour.
Oui, je trouve que les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux. Moi-même, je passe énormément de temps, je dirais même plus de 6 heures par jour. Mais tout est fait pour qu'on doive aller sur les réseaux, enfin en tout cas sur les écrans, comme pour les papiers administratifs, l'école, tout est fait pour qu'on aille sur les écrans.
Oui, les jeunes passent beaucoup trop de temps sur les écrans, principalement sur les réseaux sociaux, les jeux et les réels. Je l'utilise pas mal, mais j'essaie de les limiter et de rester raisonnable.
Selon vous, est-ce que les écrans impactent la vie des jeunes ? Si oui, pourquoi ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'un des impacts qui est le plus embêtant, c'est qu'on n'est jamais à l'abri, en fait. On est toujours sollicité et toujours exposé à ce que les gens peuvent faire comme commentaires sur soi, sur tout un tas de choses. Et ça, je pense que c'est fatigant.
Les écrans ont bien sûr un impact. Ils réduisent fortement le sommeil, la concentration et parfois augmentent le stress social. Mais il y a des côtés positifs comme l'accès à l'info et au divertissement.
Oui, les écrans peuvent impacter la vie, comme pour les réseaux sociaux, par exemple, avec le harcèlement, toutes ces choses-là. Mais ils ont aussi un point positif pour aller faire des recherches de culture générale et tout autre chose, des tutos, des choses comme ça. Mais ça peut avoir un impact aussi sur la vie sociale. Ça peut, d'un côté, garder le lien avec des personnes qui sont loin, comme une tante qui vit loin ou des amis. Et d'un autre côté, ça renferme parce que les jeunes ne sortent plus.
Selon vous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les jeunes passent moins de temps devant leurs écrans ?
Alors, soit on oblige à ce qu'il y ait des moments sans écran, soit on trouve quelque chose de plus attractif, mais c'est un petit peu difficile, plus attractif. À part les amis, je ne vois pas trop.
Il serait bon de sensibiliser sur l'importance de faire des pauses et instaurer des limites de temps en temps, comme le font certains parents.
C'est vrai que c'est compliqué de mettre des choses en place pour que les jeunes soient moins sur les écrans, parce qu'avec à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a tendance à avoir peur que nos jeunes sortent, vu tout ce qu'on voit aux informations. Mais après, il faut proposer des alternatives, comme des jeux de société, des livres, et non sur tablette. Et puis surtout, reprendre par exemple les devoirs à l'écrit, sur un agenda, comme on faisait avant, et pas tout sur ENT, par exemple.
On en a donc conclu que les jeunes ont du mal à lâcher leur téléphone.
Et aussi les adultes.
Il y en a qui ressentent de l'angoisse quand ils n'ont plus leur téléphone.
Connaissez-vous la nomophobie ? C'est un sentiment que l'on ressent quand on n'a plus notre téléphone, où on a peur de louper le dernier message, la dernière photo postée ou les dernières informations. Il y en a qui, en fonction de leur humeur, ont envie d'être sur leur téléphone ou au contraire n'ont pas envie d'être sur un écran, mais plutôt d'aller dehors, voir des amis, lire, dessiner, etc. Et vous, êtes-vous nomophobe ?
Nous allons maintenant passer au groupe de Maxence et Mathéo qui vont nous parler de la problématique suivante. Est-ce que la pratique numérique est-elle écologique ?
Bonjour, on s'appelle
Maxence
et Mathéo et nous allons vous demander à quoi vous pensez quand on vous dit
numérique
et écologie.
Donc pensez-vous que les pratiques numériques ont un impact sur l'écologie ?
On vous laisse avec notre micro-trottoir.
2, 3. Pensez-vous que les pratiques numériques sont écologiques ?
Je pense que non. Je pense notamment aux data centers, c'est des endroits où est stockée l'information et on utilise des systèmes de refroidissement qui polluent énormément parce que ça réchauffe la planète. Dans les pays notamment qui sont froids, du coup ça réchauffe. Et on utilise beaucoup de minerais comme le cobalt qui sont extraits en Afrique, qui polluent énormément. Voilà. Je pense pas que ce soit une bonne pratique.
Oui, parce qu'on peut les utiliser tous les jours, les téléphones. Et non, parce que ça pollue beaucoup.
Non, parce que ça pollue.
En soi, les pratiques numériques, c'est quelque chose qui est très bien, que ça soit écologique beaucoup moins, dans le sens où aujourd'hui, il y a le stockage des données qui prennent énormément d'énergie, qu'il y a un gros système économique autour de tout ça et qu'on ne sait pas dans quelques années ce qu'on va en faire et jusqu'où ça va aller. Donc ça utilise énormément d'énergie et non, ce n'est pas écologique pour moi.
Je pense que les pratiques numériques sont anti-écologiques du fait du réchauffement climatique, en fait. Il y a tellement de bases de données, le numérique entraîne tellement le réchauffement climatique qu'il réchauffe donc la planète, et ce qui peut faire éteindre des espèces ou même l'homme à longue durée. Et donc je pense que c'est anti-écologique à bloc. Et que, au bout du compte, le numérique ne fait que réchauffer la planète et génère beaucoup de pollution.
En conclusion, le numérique génère une forte pollution.
D'après planètebleu.info, il représente environ 3% des émissions mondiales de CO2.
Notamment à cause des centres de données.
Et de la fabrication d'appareils nécessitant des métaux rares.
Les déchets électroniques augmentent rapidement, surtout avec les téléphones portables.
Donc très peu sont recyclés et qui libèrent des substances toxiques.
Leur recyclage est complexe et leur obsolescence rapide aggrave le problème.
Des solutions existent comme le reconditionnement ou des services numériques plus sobres.
Mais une vraie prise de conscience collective reste indispensable.
Nous allons maintenant passer au groupe de Ali et Nathan qui vont nous parler d'une chronique sur les influenceurs de l'écologie.
Et voici Nordine, ah, oui, Nordine. Oh, ouais, Nordine.
Salut, vous allez bien tout le monde ?
Et toi ?
Arabe, ouais. Bruno, Nagui, tout le monde, Neila, Daniel, ça ouais. Va. Moi je suis très content d'être là, d'être chez France Inter encore une fois. C'est la troisième chronique que je fais ici. Et c'est fou parce que je sens que je deviens un homme meilleur en étant ici. Vraiment, je côtoie des gens bien, je bois dans une gourde. Vraiment, j'ai changé, vraiment. Et je sens que boire dans une gourde, ça m'a fait changer des choses dans ma tête. Déjà, notamment, j'ai développé une conscience écologique, un truc que je n'avais pas avant. Mais le problème, c'est que boire dans une
Nordine Ganso, né le 28 septembre 1996 à Sénon, en Gironde, est un humoriste, chroniqueur et acteur français. Il cumule 414 000 abonnés sur Instagram et plus de 344 000 abonnés sur TikTok. Il a obtenu le prix de l'étudiant le plus drôle de France en 2017 et le prix de l'étoile Espoir Humour du Parisien en 2019.
En 2023-2024, il a fait plusieurs chroniques sur France Inter, par exemple sur l'écologie, où il parle de l'écologie avec de l'humour et un peu de critique. Depuis, il fait des spectacles humoristique, ses chroniques sont plutôt humoristiques que utiles, car il fait plus de l'humour sur ce genre de sujet, au lieu de parler avec des vrais arguments.
Éco-responsabilité, c'est un truc que moi, j'arrive pas à comprendre, déjà parce que dans éco-responsabilité, il y a responsabilité. Et moi, je suis pas responsable, je sais pas remplir une feuille d'impôt. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour la planète, tu vois ? C'est compliqué pour moi. Surtout que nous, les jeunes, on essaie d'être sensibilisés, mais il y a des trucs qu'on comprend pas, les notions qui sont utilisées, même des fois, il y a des mots qu'on comprend pas. Et tout simple, hein, des fois, ils commencent leur discours par chers compatriotes. Non. Démarrer avec des trucs qui nous parlent, genre wesh, tu vois.
Là, on passe maintenant au groupe de Aurélien, Naturel et Paul qui vont nous proposer une interview de Timéo, Stéphanie, Manon et l'infirmière du lycée sur le thème « Le numérique crée-t-il des dépendances ?»
Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le sujet qu'on a fait pour le projet radio. Le numérique rend-il dépendant ? Tout d'abord, nous sommes allés interroger l'infirmière par rapport aux causes de la dépendance aux écrans. Et nous sommes allés lui poser plusieurs questions. Et quelles sont les conséquences de la dépendance aux écrans ?
Madame, peut-on comparer une dépendance aux écrans
à une dépendance à la cigarette ?
Fumée. On peut comparer entre une dépendance fumée et une dépendance aux écrans.
Alors, toute dépendance a des points communs. Quand on est sur une dépendance, on est sur quelque chose pour lequel on n'arrive pas à se passer. Donc que ça soit au niveau de la cigarette, de la drogue, de l'alcool ou des réseaux ou des jeux ou du sexe, ça reste une dépendance et c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer parce que le cerveau est en manque, en fait, s'il n'a plus, cette alimentation. Dépendance aux écrans, elle est différente de fumer parce qu'on n'est pas sur un produit. C'est plutôt comportemental, la dépendance aux écrans. Et alors que fumer, c'est le produit qui va nous rendre dépendants. Je ne sais pas si vous voyez la différence.
Pour vous, ce serait lequel le plus grave, même celui qui revient le plus souvent ?
Alors, on pourrait dire que la dépendance à la cigarette, en fait, et fumée, elle peut avoir une conséquence physique avec des maladies pulmonaires, avec des problèmes dentaires, avec des problèmes asthmatiques. Donc, on peut dire qu'elle est grave. Après, la dépendance aux écrans, elle ne va pas être grave sur le début. Mais en fait, si on joue vraiment de trop, elle va nous couper des relations. Donc ça veut dire aussi qu'on va pouvoir jouer pendant la nuit et donc on va pas dormir. Donc ça va être manque de sommeil. Si on est en manque de sommeil, ça veut dire qu'on va plus aller travailler. Si on travaille plus, ça veut dire qu'on risque de perdre son boulot ou de pas pouvoir aller à l'école. On ne s'alimente plus, on coupe les relations sociales et en fait ça entraîne aussi des conséquences assez graves.
La deuxième question, c'est la dépendance aux écrans a-t-elle des effets sur le corps ?
Alors j'ai un peu répondu directement non, mais en fait elle va avoir une répercussion sur le corps à partir du moment où ça va prendre toute notre journée et qu'on va en oublier et le sommeil et l'alimentation.
Est-ce que ça peut apporter des mal de tête à long terme ?
Ça peut éventuellement apporter mal de tête à long terme parce que du coup en termes de concentration et au niveau des yeux, ça va abîmer et on sait que trop se concentrer sur les écrans, ça peut donner effectivement des maux de tête. Donc, en plus, si tu manques de sommeil parce que tu joues beaucoup la nuit, du coup, le manque de sommeil va te créer également des maux de tête. Donc, oui, il y a une répercussion sur le physique. Ouais.
Quelles sont les mauvaises influences de la dépendance aux écrans ?
Qu'est-ce qui pourrait nous influencer ?
Qu'est-ce qui pourrait nous influencer par rapport au fait d'être addict aux écrans ?
Aux écrans. Alors ça dépend ce que tu regardes en fait sur les écrans, si c'est en termes de jeu, si c'est en termes de réseau. Si tu t'en renseignes en fait sur des choses qui vont t'apporter du positif, de la connaissance, que tu es au courant en fait que tout ce que tu écoutes est vrai et qu'on n'est pas sur des fake news, et donc ça peut être intéressant. Après le danger c'est effectivement que tu puisses déjà être... Alors, il y a le problème de harcèlement, et puis il y a aussi le problème d'informations qui ne sont pas toujours réelles, qui sont fausses. Et puis, tu peux aussi te faire influencer par des mecs qui vont, au bout d'un moment, te demander de l'argent en contrepartie. Il y a le problème de harcèlement chez les filles, de nude. En fait, il y a tout un tas de problématiques au niveau des écrans qui vont pouvoir te mettre en insécurité. Et ça, tu peux te faire influencer de façon un peu insidieuse contre ta volonté. Et il faut toujours être vigilant à ce que tu regardes, ce que tu écoutes et qui te transmet les informations. Voilà.
Du coup, une dernière question qui n'est pas marquée. Est-ce que c'est pour cela qu'il est d'accord que le fait d'utiliser nos téléphones au lycée a été modéré ?
Alors, l'utilisation du téléphone a été modérée parce qu'on a voulu renforcer les liens sociaux aussi. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas sur vos téléphones, c'est aussi pour favoriser les liens sociaux entre vous. Et puis, on sait que si on vous les laisse à un certain moment, vous allez privilégier plutôt le téléphone au travail. Donc, on veut aussi essayer de vous remettre dans des situations de travail sans téléphone. Et puis, idéalement, la nuit, c'est pour que vous puissiez vous reposer et que votre cerveau a besoin à un moment de calme Et on sait que les téléphones amènent de la lumière bleue. Et cette lumière bleue, elle fait comme si le cerveau se disait bah, « il fait jour et moi, j'ai pas envie de dormir ». Donc, elle vous empêche de dormir, en fait, cette lumière bleue, parce que votre cerveau se dit « mais c'est pas la nuit, donc je continue à fonctionner ». Et vous êtes en manque de sommeil et vous n'êtes pas bien après le lendemain. Est-ce que cela vous convient ?
Oui. Est-ce qu'on pourrait juste inspecter votre temps d'écran, comme pour tous les adultes avec qui nous avons parlé jusqu'à maintenant ?
Inspecter mon temps d'écran, c'est-à-dire sur...
Mon téléphone,
si tu veux, je ne sais pas où ça se trouve et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, temps d'écran.
Vous direz que vous êtes souvent, très peu ou...
Alors, très peu par rapport à vous, je pense. Je vais regarder et puis je vais vous le dire.
Merci, d'avoir répondu aux questions.
Ensuite, nous sommes allés interroger le personnel administratif du lycée pour savoir s'ils avaient remarqué de la dépendance aux écrans dans l'enceinte du lycée. Nous sommes allés faire un sondage pour savoir si les élèves ont remarqué de la dépendance autour d'eux et regarder leur temps d'écran.
La question qu'on voudrait te poser, Stéphanie, c'est « As-tu remarqué de la dépendance aux écrans dans le lycée ?»
Oui, beaucoup de dépendance.
Est-ce qu'on pourrait avoir ton temps d'écran, s'il te plaît ? Le temps d'écran était de 2h et 43 minutes. As-tu remarqué des temps d'écran des personnes qui utilisaient souvent leur téléphone autour de toi ?
Oui, moi.
Est-ce qu'on pourrait avoir ton temps d'écran, s'il te plaît ?
Oh, plusieurs heures.
On a deux avis d'AED qui ont donné leur avis sur le fait de savoir s'il y a beaucoup de dépendance aux écrans au lycée. On a deux avis et les deux avis disent qu'ils le remarquent souvent de la dépendance au lycée. 12 heures de temps d'écran pour Yuna. Et toi, Sophia ? On a 1 heure et 3 minutes pour Sufa. En vrai, ça va, le temps d'écran, il n'est pas très présent pour une journée.
Est-ce que tu pourrais me donner ton temps d'écran, s'il te plaît ? En moyenne, par jour. Bon, on va dire qu'en moyenne, t'as 2... Enfin, après, là, c'est le début de la journée. Donc,
c'est le début de la journée. Donc après,
tu dois avoir 5 heures, peut-être. Un truc comme ça.
Moi, je pense que la génération de maintenant, elle utilise trop son téléphone. Il faudrait pas réduire. On laisse comme ça et on voit dans le futur.
Alors du coup, la question qu'on voudrait vous poser, c'est que pensez-vous des élèves qui utilisent trop leur téléphone, des temps d'écran en général, et est-ce que vous avez un temps d'écran élevé ?
En général, moi je pense que les humains, de manière raisonnable, on peut se raconter de manière raisonnable, passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur leurs écrans, qu'ils soient téléphoniques, en l'occurrence c'est un petit ordinateur quand même qu'on a en poche. Je pense que la moyenne... Elle doit être de 4-5 heures, à minima, je pense, chez les jeunes, ça c'est sûr, voire plus pour certains, voire 8 heures, 10 heures. Pour les adultes, je pense qu'elle est élevée aussi. Disons que le temps que je passe sur les écrans, c'est un temps que je passe pas à regarder le ciel. C'est un temps que je passe pas à regarder les gens. C'est quoi vivre, en fait ? C'est quoi la vraie notion de la vraie vie, en fait ? C'est quoi ? Est-ce qu'elle est numérique ? Est-ce que c'est plutôt pas dans la relation physique ? Quand je dis physique, c'est humaine. Au travers des écrans, il y a beaucoup, beaucoup de malentendus, c'est-à-dire de façons de dire les choses qui sont... parfois mal vécues par celui qui les reçoit parce qu'elles sont maladroites, maladroitement dit. Moi, je crois qu'on fait tous beaucoup trop d'écran et je crois que la place des adultes, c'est déjà de montrer l'exemple, pour commencer. Puis dans un deuxième lieu, dans un deuxième temps, accompagner les plus jeunes sur un usage plus modéré. Ça reste des outils très intéressants, mais il faut les utiliser comme des outils. D'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est des trompes l'ennui, en fait. On ne supporte plus de s'ennuyer. Donc on sort tout de suite, on dégaine tout de suite son téléphone et on scrolle. Donc ça c'est ce que j'en pense. Je pense qu'il y a des enjeux majeurs et si on croise un tout petit peu l'évolution des populations humaines, des civilisations et la façon dont on va mesurer leur quotient intellectuel pour la première fois de l'histoire de la civilisation humaine, pour la première fois, le quotient intellectuel en France a baissé en moyenne. C'est à mettre en parallèle avec des usages des écrans. Une difficulté à construire un esprit critique, à remettre en question, c'est-à-dire à interroger la vérité. La vérité, comment est-ce qu'on accède à la vérité ? Bien, on y accède aujourd'hui par des méthodes dites scientifiques, un peu cliniques. Ce que je vois n'est pas forcément la vérité sur un écran. Hein, l'IA va tromper tout le monde. Et donc les seules manières d'accéder à la vérité, ça reste quand même la méthode scientifique.
Voici des réponses que nous avons aussi trouvées sur quelques sites fiables. Des articles de presse et maintenant nous allons vous présenter le nom des sites sont Médecins Directs et l'autre est GénérationÉcran.fr. Qu'est-ce que l'addiction aux écrans ? L'addiction aux écrans se manifeste par une utilisation excessive et compulsive des appareils numériques. Même si le problème semble plus exacerbé, les jeunes enfants, ils ne sont pas les seuls à subir les conséquences de la surexposition aux écrans. Quel que soit l'âge, il existe des risques dès lors qu'un usage numérique existe. Les symptômes incluent une perte d'intérêt pour les activités sociales et physiques, de l'anxiété, des troubles du sommeil et une baisse des performances scolaires professionnelles.
L'usage des écrans par les adolescents ne cesse d'augmenter en Europe, suscitant des inquiétudes croissantes chez les professionnels de la santé, les éducateurs et les parents. Selon une étude récente de l'Organisation mondiale de la santé menée avec l'étude Health Behavior in School Age Children, la proportion d'adolescents européens présentant une utilisation problématique des réseaux sociaux est passée de 7% en 2018 à 11% en 2022.
Cette tendance est particulièrement préoccupante chez les filles et notamment à l'âge de 13 ans où les réseaux sociaux jouent un rôle central dans leur vie quotidienne. Par ailleurs, l'étude révèle que 12% des adolescents sont à risque de développer une utilisation problématique des jeux vidéo avec une nette prédominance chez les garçons, 16% contre 7% chez les filles. Les impacts négatifs sur la santé mentale. L'exposition prolongée aux écrans n'est pas sans conséquence sur la santé mentale des jeunes. Plusieurs études ont mis en évidence un lien entre l'hyperconnexion et divers troubles psychologiques.
Les troubles qu'on va vous énumérer sont les troubles qui sont liés à la surexposition aux réseaux sociaux et à l'hyperconnexion. On a comme trouble le trouble du sommeil. La lumière bleue émise par les écrans perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil provoquant des insomnies et un sommeil de moins bonne qualité. Le déclin des performances scolaires. Une consommation excessive des écrans réduit le temps consacré aux devoirs et à la lecture, entraîne une baisse de concentration et des difficultés d'apprentissage. Les symptômes d'anxiété et de dépression. Une surexposition au contenu anxiogène et une interaction sociale en ligne peut accroître les sentiments d'isolement et de stress et de mal-être.
L'Institut national de la santé publique du Québec a notamment observé que les jeunes passent plus de 4 heures par jour sur les écrans, ont une problématique plus élevée de souffrir de troubles anxieux et de dépression.
Les jeux vidéo, un refuge dangereux. Si les jeux vidéo peuvent avoir des aspects positifs en matière de sociabilisation et de coordination, leur usage excessif peut favoriser l'isolement.
Régulation des plateformes numériques. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander une régulation plus stricte des réseaux sociaux et des jeux vidéo en ligne. Mise en place de contrôles parentaux plus efficaces. Restriction d'accès aux plateformes pour les mineurs. Âge minimum, temps d'utilisation.
Vers un usage plus raisonné des écrans, l'impact des écrans et la santé mentale des adolescents en Europe est un problème problématique grandissant qui nécessite une réponse coordonnée. Parents, enseignants, institutions et décideurs politiques doivent agir ensemble pour promouvoir des habitudes numériques saines et éviter l'hyperconnexion ne devient pas un problème de santé publique à long terme. Un équilibre entre deux temps d'écran et des activités hors ligne est essentiel pour garantir le bien-être mental et physique des jeunes générations. Et voilà, voici finalement les recherches que notre projet radio et qui nous ont menés à ça.
Maintenant, on va passer au quiz de Simon. Il est sur quoi le thème de ton quiz ?
Le thème de mon quiz est sur l'écologie et le numérique. Alors, la première question est combien Greta Thunberg a-t-elle de followers sur Instagram ? La première proposition est 16,6 millions de followers, 1000 followers ou 2 milliards 500 millions.
2 milliards 500 millions.
Bah malheureusement, c'était 16,6 millions de followers d'après son compte Instagram. Alors, la question numéro 2. Combien de tonnes de déchets de téléphone sont jetés par an en France ? Une tonne, 454 kilos ou 2129 tonnes ?
2129 tonnes.
Eh ben, c'était la bonne réponse. C'était d'après Prixel.com. Alors, la question 3. Combien de kilos de matières premières a-t-on besoin pour fabriquer un smartphone ? 50 kilos, 20 kilos ou 70 kilos ?
70 kilos.
Eh ben, c'est la bonne réponse. C'est d'après Prixel.com. La question 4. Quel est l'impact sur l'environnement par rapport aux déchets ? Les déchets contaminent des ressources naturelles et altèrent des écosystèmes. De plus, les déchets sont une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Les déchets aident à la fertilisation des champs et sont bénéfiques pour la planète.
Je dirais la première réponse.
Eh bien, c'était la première réponse.
Merci.
Alors, la question 5. Combien d'arbres sont coupés chaque minute ? 0, 2400 ou 150 ?
La deuxième.
2400, d'après Planète Altruiste. Question 6. Est-ce que les batteries de voitures électriques polluent la Terre ? Non, elles sont essentielles à la pureté de l'air. Oui, elles émettent des gaz à effet de serre. Eh bien, c'était la bonne réponse. Par UFC, que choisir ? Et voici la dernière question. Combien de kilos de déchets les Français jettent-ils par minute ? 1000 kilos, 12 000 kilos ou 7200 kilos ?
12 000 kilos ?
Eh ben non, c'était 7200 kilos par France 3. Merci d'avoir répondu au quiz et je vous souhaite une excellente journée.
Merci. Nous allons maintenant passer à un débat sur le thème de la révolution numérique. A-t-elle permis une meilleure protection des animaux, présenté par Gohan, Liam et Lucas ?
Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un débat sur l'impact du numérique sur les animaux et la question sera, la révolution numérique a-t-elle permis une meilleure protection des animaux ?
Autour du plateau nous avons Lucas, un citoyen adhérent d'une association de défense des animaux, Liam, ingénieur en numérique, Gohan, un autre ingénieur en numérique, et moi, Anthony, un défenseur des droits des animaux.
Selon moi, le numérique n'aide pas du tout les animaux, au contraire, cela perturbe leur vie. Admettons qu'on vienne dans un habitat où des chauves-souris y vivent. Ces habitats vivent généralement dans des grottes. Pour se déplacer, utilisent des sonars, ou plus communément appelés l'écholocalisation. Elles l'utilisent afin de localiser et caractériser les éléments de leur environnement. À cause du numérique, cela les perturbera et ne pourra plus se dépasser correctement, et donc de repérer ce qui l'entoure.
Au contraire de ce que Lucas a dit, le numérique est bénéfique au quotidien, car il permet de protéger les animaux des dangers extérieurs. Nous pouvons donc commander des grillages pour pouvoir protéger les animaux. Ma position en tant qu'ingénieur en numérique, la révolution numérique nous a permis de créer des outils qui permettent les soins des animaux, par exemple l'application Mon Compagnon.
D'après ce que dit Liam, le numérique est surtout utilisé pour capturer et faire des expériences sur les animaux à travers des machines. Ils ne sont plus vraiment protégés actuellement, ils sont plus en danger que protégés.
L'utilisation du matériel numérique pour la chasse, par exemple le drone qui fait du bruit et fait fuir les animaux sauvages et les dérange dans leur habitat. Par exemple, l'application de drone DJI Fly, on peut commander un drone sur Internet.
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, Lucas, parce que pour moi, justement, la révolution numérique a permis à créer de logiciels comme Akongo ou Elfarminator qui nous permettent de mieux analyser le comportement et les animaux pour leur recréer un environnement stable et confortable pour leur survie.
Non, moi je suis pas du tout d'accord avec toi, Lucas.
En vrai, je pense que si. Hein.
Non, moi je suis pas d'accord.
Non, mais tais-toi en fait, Lucas, on t'a pas demandé.
Stop.
Nous accueillons maintenant un groupe composé de Abigail, Louane et Chloé qui vont nous parler de l'avenir des êtres vivants qui dépendra peut-être du numérique.
Bonjour, notre groupe est composé d'Abigail, Louane et Chloé. Nous avons travaillé sur l'avenir des humains et des êtres vivants. Dépendra-t-il du numérique ? Nous avons interviewé nos professeurs, Monsieur Clot, notre CPE, Monsieur Fort et un des cuisiniers de la cantine du lycée. Ils nous ont chacun donné leur avis sur nos questions en rapport avec l'impact du numérique sur l'environnement humain et vivant. On va alors vous faire écouter les interviews.
Pensez-vous que dans le futur, le numérique aura remplacé les humains ?
Ah non, je pense pas. Je pense que le numérique, c'est un outil, mais quoi qu'il advienne, l'intelligence artificielle, les usages numériques, le téléphone, a priori, sont au service de l'humain. Après, c'est quels usages on en fait et est-ce que cette intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce qu'elle est capable d'apprentissage, est-ce qu'elle sera capable d'autonomie ? L'autonomie dans la prise de décision. Et c'est à cet endroit que justement il y a un point de rupture auquel il faut prendre garde parce que, en effet, derrière ça, sur une prise de décision qui va engager la vie humaine ou engager l'éthique de l'humain ou la morale de l'humain, l'intelligence artificielle, le numérique, n'ayant pas d'âme, n'ayant pas de valeur à proprement parler, mais uniquement les valeurs que lui ont inoculé l'humain, eh bien, à un moment donné, prendra une décision en dehors de tout ça.
Je pense que dans certains domaines, il remplacera les humains, tous les domaines du tertiaire, du secondaire, mais dans le primaire, l'artisanat, la restauration, moi je suis cuisinier, on aura toujours besoin d'humains pour, et de bras pour faire certains travaux.
Alors j'espère que le numérique ne remplacera pas les humains. La question c'est de savoir si on est assez fort pour résister au numérique et à la force du numérique qui va peut-être détruire l'humanité.
Pensez-vous que le numérique entraînera la perte de d'autres espèces ?
Je pense c'est que toutes les espèces sont menacées à l'heure actuelle à cause du réchauffement climatique. Donc le numérique contribue au réchauffement climatique. Donc oui, je pense que certaines espèces disparaîtront à cause du numérique.
Pour l'instant, c'est certain que le numérique est en train de détruire une partie de l'humanité. Hein, il y a plein de data centers partout, et ces data centers sont en train d'être de plus en plus puissants, de manger de plus en plus d'électricité, donc de détruire une partie de l'atmosphère, de la planète. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, on détruit avec le numérique la planète.
Alors les usages numériques à proprement parler, ils sont gourmands en énergie. Dès lors que n'importe qui utilise un réseau social, une intelligence artificielle, il faut mettre en connexion tous les savoirs, toutes les connaissances par des serveurs. Ces serveurs-là sont installés un petit peu partout dans le monde. Ils consomment beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Ils produisent beaucoup de chaleur, donc il faut les refroidir. Ce qui veut dire que pour aménager ces serveurs, nécessairement, il y a encore un aménagement des espaces naturels ou des espaces urbains qui vont avoir un impact inévitable sur la vie, d'une manière générale, végétale ou animale ou humaine. Derrière ça, les connexions sont plus filaires, elles sont Wi-Fi, donc avec de la G4, de la G5, voire plus. Il y a un certain nombre d'études qui ont bien montré que ces ondes-là, même si déjà nous humains, on peut y être sensible, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'électromagnétisme, et il y a des gens qui sont électrosensibles et qui du coup vivent des grosses migraines ou des phénomènes de désorientation en lien avec ces ondes-là. Et pour les animaux et notamment les oiseaux, ça génère des vraies perturbations. Donc de toute façon, ces usages des ondes, au sens large du terme, même si elles ne sont pas audibles, elles sont perceptibles pour les animaux et extrêmement nocives pour leur organisation. Voilà.
Et dernière question, pensez-vous que l'avenir des humains et des êtres vivants dépendra-t-il du numérique ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos sociétés sont construites sur le transfert rapide d'informations, notamment au niveau bancaire et au niveau économique. La mondialisation des échanges, l'internationalisation des échanges se fait par le biais du numérique. Donc de fait, l'équilibre des sociétés occidentales de marché aujourd'hui se fait avec le numérique. Je vous invite à lire un bouquin qui s'appelle « Ravage » de René Barjavel, qui met en scène justement une rupture énergétique, et donc ce qu'on appelle une tâche solaire pour Barjavel, qui est début du XXe siècle. Et qui met la population humaine en grande difficulté. En fait, c'est surtout l'usage des énergies. Et puis, on l'a vu, hein, y a des interdépendances qui nous rendent extrêmement vulnérables. Le jour où il y a un crack énergétique ou un crack numérique, on voit comment ça empêche d'un seul coup les échanges de se produire, comment ça empêche un hôpital de fonctionner, une école de fonctionner, un État de fonctionner. Si toutefois il y avait un blackout au niveau bancaire, tout le monde perdrait son argent, parce que la plupart des gens n'ont que de l'argent virtuel, ce sont des écritures, mais personne n'a vraiment de cash, personne n'a vraiment d'or. Donc, nos sociétés aujourd'hui extrêmement complexes, fondées sur les échanges internationaux, sont extrêmement vulnérables. Il n'en est pas de même des populations autochtones qui vivent tranquillou bilou dans des forêts primaires. Il y en a encore quelques-unes et qui, elles, surmonteront bien mieux ces blackouts que les populations dites de l'ère moderne inscrites dans la mondialisation.
Et pensez-vous que l'avenir des humains et des êtres vivants dépendra-t-il du numérique ?
Du numérique, je ne sais pas en particulier, mais des nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle, je pense.
Alors, l'avenir, il va dépendre de notre volonté de résister à une partie du numérique qui va être néfaste, en effet. Alors, tout le numérique, peut-être pas, mais une partie, en effet, très importante, on va devoir résister à cette avancée pour ne pas être détruit.
D'accord. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Notre question était donc, l'avenir de l'être humain et des êtres vivants dépend-il du numérique ? Nous sommes tous dépendants au numérique quand on regarde notre rapport au réseau et aussi sur le plan économique. Mais le numérique ne remplacera jamais l'humain dans une majorité des métiers, mais que pour d'autres, des robots numériques ont déjà fait leurs preuves en Chine et au Japon ou encore dans les métiers artistiques.
Le numérique représente 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et augmentera sûrement à l'arrivée de l'IA, selon l'ADME. On se rend compte que quand on interviewait les gens, que les pratiques numériques sont une fatalité, on ne peut pas y échapper. Maintenant, l'important est de réfléchir aux usages du numérique.
Et pour finir cette émission, nous allons accueillir un nouveau groupe.
C'est le groupe de Noah et Kylian qui vont nous présenter une interview sur le thème des temps d'écran.
Bonjour, nous sommes au lycée Horticole de Blois et nous allons interviewer des élèves et un professeur d'informatique sur certaines questions comme leur temps d'écran, pourquoi ils sont intéressés par le numérique. On vous laisse donc avec notre interview. Quel est votre rapport avec le numérique chaque jour ?
Moi, j'utilise à peu près tout le temps parce que je m'ennuie. Et voilà, c'est tout.
En quel intérêt ?
En aucun intérêt pour parler à des personnes qui sont dans un autre établissement ou peu importe quoi, quand je m'ennuie.
Depuis quel âge utilisez-vous le numérique ?
J'utilise le numérique depuis l'âge de mes 13 ans.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans le numérique ? D'après vous, aide-t-il à mieux vivre ?
Bah, d'après moi, il aide à mieux vivre parce que tu peux joindre tes amis d'autres établissements et tout en faisant beaucoup de choses.
Quel est votre rapport avec le numérique chaque jour ?
Je passe souvent de temps sur mon tel ou mon ordinateur pour regarder des vidéos ou je sais pas, pour travailler.
Vous regardez combien de temps de numérique chaque jour ?
Ça dépend, en vrai, 4 heures.
Depuis quel âge utilisez-vous le numérique ?
Depuis que j'ai 11 ans.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans le numérique ? D'après vous, aide-t-il à mieux vivre ?
Qu'est-ce qui m'intéresse ? Bah, en vrai, il y a plein de vidéos, c'est super intéressant et tout. Et si c'est bien ou quoi que ce soit pour plus tard ? Bah, en vrai, ouais, c'est bien parce que des fois, il y a des informations vraies.
Bah, là, quand je suis à l'internat, j'utilise pas beaucoup. Là, c'est le début de la matinée, du coup, je suis presque 2 heures de téléphone. Mais sinon, quand je suis chez moi, je suis pendant le week-end beaucoup sur mon PC, téléphone et voilà. Depuis quel âge ? Bah, depuis que je suis en primaire, à l'âge de 6-7 ans. Bah, ce que j'aime, bah, c'est être sur les réseaux, TikTok, Insta, YouTube et puis... voilà.
Quel est votre rapport avec le numérique chaque jour ?
Plusieurs heures, je dirais 6 heures par jour.
Quel intérêt ?
Le divertissement, la musique.
Depuis quel âge utilisez-vous le numérique ?
Facilement depuis mes 10 ans. Ouais, il est à mieux vivre parce que pour ce qui est les relations amicales à distance et tout, c'est pratique pour la communication.
J'utilise mon téléphone 10 heures par jour, donc je suis plutôt familier. Surtout TikTok.
Depuis quel âge utilisez-vous le numérique ?
Depuis mes 7 ans, j'ai commencé avec une Nintendo DS. Et forcément, il facilite les communications entre les gens. Et ça aide au divertissement.
C'est quoi le numérique pour vous ?
C'est la capacité à pouvoir se passer du papier, globalement, et de traiter toutes les informations à l'aide d'un ordinateur.
Quel est votre rapport au numérique dans votre vie personnelle et professionnelle ?
Alors, côté professionnel, bah, c'est une partie de mon métier puisque je suis professeur d'informatique au lycée. J'en ai besoin aussi, même pour les cours de maths. En fait, maintenant, il y en a besoin absolument partout. Dans ma vie personnelle, ça prend trop de place. J'aimerais bien y avoir accès un peu moins, mais la plupart des services maintenant sont numériques aussi.
Les points positifs et négatifs de l'usage du numérique ?
Les points positifs, il y en a sûrement beaucoup. Moi, je vois la possibilité de stocker et conserver des informations. Je pense que ça prend beaucoup de temps.
Et d'après vous, permet-il de mieux vivre ?
Alors, si je peux répondre à la question d'avant, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est le traitement des photos. Oui, d'avoir accès à la musique qu'on veut, à peu près où on veut.
Et d'après vous, permet-il de mieux vivre ?
Alors ça, c'est une bonne question. j'ai pas forcément l'impression, ça dépend de ce qu'on cherche, ça dépend de ce que tu appelles mieux vivre. Si t'es pas organisé autour de la nature, je pense que ça te servira peut-être pas à grand chose.
Ok, merci.
D'après les interviewés, le numérique est utile dans la vie sociale, par exemple pour parler à nos amis qui ne sont pas dans le même lycée. C'est aussi utile dans la vie personnelle pour faire du travail demandé par l'école. Certains nous ont dit qu'ils passaient leur temps sur leur téléphone, ils passaient leur temps sur les réseaux sociaux et en rentrant chez eux, jouaient aux jeux vidéo.
Mais certains nous ont dit que le numérique n'était pas bon pour notre cerveau et nos yeux. Et en effet, comme le dit le site Santé Magazine, passer de longues heures sur les écrans fatigue nos yeux. La fatigue oculaire peut se traduire par une sensation de picotement, de brûlure, voire des maux de tête, surtout en fin de journée. Garder les yeux statiques n'est pas naturel et nuit à la microcirculation des petits vaisseaux. Mais le numérique a aussi du positif. Les nouvelles technologies aident à suivre et corriger certaines maladies.
Maintenant, nous allons accueillir un groupe composé de Elena, Camille et Delia qui vont nous parler de comment utiliser le numérique dans le bien-être de la planète.
Bonjour, nous allons essayer de répondre à la question « Comment utiliser le numérique pour le bien-être de la planète ?»
Dans un premier temps, nous avons interrogé la professeure documentaliste du lycée, Gohan, un ami de notre classe, notre professeur de français, notre professeur d'ESC, des personnels de cantine et enfin Liam, un ami de notre classe, et Anaïs, une amie du lycée.
Nous vous laissons écouter notre interview. Dans quel cas pensez-vous que le numérique n'est pas bien pour la planète ?
Parce que ça consomme énormément d'énergie. Stocker des mails, stocker des données, etc., c'est vraiment très, très énergivore. Donc effectivement, c'est pas bon.
Je pense que pour préserver la planète, il faudrait limiter grandement les commandes sur Internet, puisque ça consomme de l'énergie. Et après, les commandes, on sait d'où elles viennent. Du coup, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie fossile, etc.
Pour la planète ? Franchement, je dirais par exemple pour les zones industrielles avec le numérique et les batteries de, par exemple, de voitures électriques, on ne sait pas quoi en faire et bah, il faut les enterrer dans le sol et franchement, c'est pas ouf.
En général, je pense que dans tous les cas, c'est mauvais. Il faut supprimer le numérique de la vie des humains.
Je pense qu'au niveau au début de la chaîne, en fait, au niveau de la fabrication du matériel numérique, ça provoque beaucoup de pollution et puis des déchets aussi. Et ça provoque aussi de la précarité quand on voit les personnes qui travaillent dans ces mines de métaux rares et les traitements qu'ils subissent. Ça pose vraiment un problème éthique. Donc, je pense que le numérique, quand on parle de matériel, en fait, la fabrication elle-même est tout à fait critiquable.
Dans quel cas pensez-vous que le numérique est bien pour le mieux-être de la planète ?
Ça permet d'avoir les informations rapidement.
Parce que ça permet la circulation de l'information. Donc ça, je pense que plus les gens sont informés, plus ils vont être peut-être capables de prendre des bonnes décisions.
Bah, je dirais par exemple pour les éoliennes, ça permet, imaginons, de créer de l'électricité avec le vent, en accord entre guillemets avec la planète. Et aussi par exemple pour le développement de notre planète et créer des systèmes électriques pour le bien-être.
D'accord.
Dans aucun cas il est bon. Donc il faut supprimer le numérique de la planète.
Bah, le bien-être pour la planète, non, c'est pas un bien pour la planète, c'est plutôt plus pour l'information.
L'avantage du numérique, ça a permis en fait de diffuser comme jamais auparavant très rapidement des informations, Et donc aujourd'hui, c'est vrai que du coup, les citoyens du monde sont mobilisés sur des questions environnementales. Donc ça, c'est quand même intéressant en fait de pouvoir faire passer de l'information assez rapidement et on va dire à l'échelle planétaire.
Pourquoi utilisez-vous les appareils numériques ?
Mais pour plein de choses, pour téléphoner, pour regarder des films, pour me documenter, pour échanger. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses, comme tout le monde, je pense.
Bah parce que ça facilite la vie. On peut tout faire, t'as ton téléphone, t'as une calculatrice, tu peux chercher tout ce que tu veux, tu peux jouer, tu peux t'amuser. C'est franchement très utile.
Bah, les appareils numériques, c'est-à-dire si on veut accéder à certains renseignements au-delà sans...
Sur les téléphones,
sinon on ne peut pas avoir accès, on ne peut pas appeler, on ne peut pas... Il y a la télé, tout fonctionne avec ça. On ne peut plus communiquer sans téléphone en fin de compte.
Pourquoi utilisez-vous les appareils numériques ?
Parce que je ne peux pas faire autrement.
Alors je les utilise pour me cultiver, voilà. Pour aussi dans le cadre de mon métier, donc pour préparer des séquences pédagogiques. Donc ça peut être un bon éther en fait quelque chose qui va me permettre d'apporter des contenus et puis dans ma vie quand même, enfin au niveau même pratique dans le quotidien, voilà, de nombreuses tâches du quotidien en fait ont été dématérialisées, ce qui fait que c'est quand même intéressant, donc je m'en sers, voilà, à titre personnel et à titre professionnel.
D'accord, merci.
Bon.
En conclusion, nous nous rendons compte que les avis sont partagés, mais que le numérique reste important pour le travail et les études.
Plus d'appareils numériques, nous ne pouvons plus appeler ou même discuter et ne plus avoir d'informations sur ce qu'il s'est passé dans le monde.
C'est la fin de cette émission. Merci aux participants et de nous avoir écoutés. L'émission est réécoutable sur le site www.studiozef.fr. Au revoir et à bientôt sur Studio Zef.
Um futuro a construir na voz da Amazônia. Vamos nos reunir. COP 30 em Belém. Chamado à ação nas florestas e rios. Pulsa só coração. Juntos pela vida. Futuro a construir na voz da Amazônia. Vamos nos reunir. Biodiversidade, tesouro a proteger. Na mesa das nações, é hora de entender. O planeta clama, é hora de ouvir.